RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage sur les enfants volés de la Réunion. De 1966 à 1982, l'État français a transféré 2150 enfants de la Réunion vers la métropole. Des bébés ou des adolescents arrachés à leur famille, parfois sans consentement, pour aller repeupler des départements de métropole touchés par l'exode rural. En dépit des promesses qui avaient été faites, ces enfants n'ont jamais revu leurs parents biologiques. Ils ont été adoptés. Un scandale d'État dont le gouvernement a pris la mesure depuis 2014. Fin février, là début mars, la commission nationale mise en place pour faire la lumière sur ce drame doit rendre son rapport final. En décembre dernier, Valérie Andanson de la Fédération des enfants déracinés, Maryse Ferragu et Marlène Morin sont retournées parfois pour la première fois sur leur île natale. Un voyage à la recherche de leurs origines. Frédéric Lebel les a accompagnées.
Merci d'avoir patienté, nous évitons l'ensemble des passagers du vol Corsair 710 à destination de Saint-Denis de la Réunion. Ça vient vouloir embarquer, porte A23.
Je suis ravie d'être là, d'accompagner Marlène et Maryse qui retournent pour la première fois sur leur île natale depuis leur exil. Et moi je suis aussi en quête, je vais aller voir mon papa biologique.
Marlène, est-ce qu'il est très important pour vous ce voyage ?
Très, très, parce que je n'ai jamais revu ma famille. Donc je ne sais pas si je vais les revoir. Ça fait 52 ans que j'ai quitté l'île.
Valérie, Marlène, Maryse commencent bien plus qu'un voyage, plutôt une quête de leurs origines, de leur enfance volée, à la recherche d'un père, d'une sœur ou d'un neveu. 11 heures plus tard, devant l'aéroport de Saint-Denis, Maryse, exilée dans le Gers à l'âge de 5 ans et demi, découvre ses quatre demi-sœurs de la Réunion, Clairette, Colette, Sabrina et Natacha. Beaucoup de nouveaux prénoms et tout de suite, un premier déjeuner familial chez Clairette.
Ben voilà, bon ben on est arrivé à la maison, hein, bienvenue. Hein.
Oh là là. Quand je suis arrivée là, j'ai dit « Ouah, une petite maison comme ça, créole, et vraiment jolie. J'en reviens pas la vue qu'il y a en bas. C'est vraiment très 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 beau. Voilà. Après, bon, on va être regroupés là. Donc ça va être hyper important. Ça, c'est, on peut pas s'imaginer l'importance que ça a de pouvoir se mettre un visage, son visage sur quelqu'un de la famille.
C'est ma fille, Bénédicte.
Bonjour Maryse.
Donc, on est à 10. Bon, ben c'est très bien la
chance.
Le Stati qui va arriver. Ben, bienvenue à la maison.
Bienvenue.
Bienvenue dans la famille.
Merci.
Voilà.
À la note.
Ce voyage, Maryse l'a longtemps redouté, trop incertaine de l'accueil qu'on lui réserverait à elle, l'enfant naturel d'un père volage. Mais poussée par Valérie Andanson et son association, elle a finalement sauté le pas à 50 ans pour répondre à la seule grande question qui lui importe.
Qui je suis ? Qui je suis ? Parce que ça, vous ne vous rendez pas compte quand vous êtes orphelin. Eh bien, on vous pose tellement de questions. Et on se rend compte qu'on ne répond qu'une chose. Ben non, je suis orpheline de naissance, donc automatiquement, je ne sais pas. Et on recherche, oui, une identité. On recherche, voilà, qui on est. Voilà, non, je vous montre un petit peu les photos de la petite. Voilà, oui. Ça, c'est moi quand j'avais 16-17 ans.
Tu ressembles à mamie. Tu veux un café ?
Enfant de l'assistance, comme on dit, Maryse a été mise dans un avion pour la métropole en 1973. Ce sont les juges qui ont retiré l'autorité parentale à sa mère. À 7 ans, dans le Gers, elle se retrouve chez des parents adoptifs, alcooliques et défaillants, précise-t-elle. Son arbre généalogique compliqué est peuplé d'une quinzaine de demi-frères et sœurs. Elle est venue les bras chargés de cadeaux pour ses inconnus si proches.
Si c'est pas bien, tant pis.
Pas grand chose.
Je sais que tu n'aimes pas qu'on te prenne à les bras, mais je vais le faire quand même.
Voilà, bien pour toi. Voilà. J'ai du mal, hein.
Merci.
Ce retour dans le passé, Valérie l'a fait il y a plus de 10 ans. Adulte, elle est même retournée vivre à une époque à La Réunion. C'est là qu'elle a retrouvé Valakonda, son parrain. Rendez-vous devant l'église de Bois-de-Neuf-le-Saint-Paul.
Moi, 13 ans.
Voilà, c'est l'église là où j'étais baptisée. Et voilà.
C'était vous qui étiez là ?
Oui, son parrain, oui.
Mon parrain s'appelle Valère Grondin et le jour où je l'ai rencontré, ça a été un moment d'émotion intense. J'ai cru voir un papa.
Parce que j'ai trouvé la petite nouvelle. Mais c'est moi qu'elle était morte. Allez voir, il fait plaisir qu'il m'a trouvé elle.
C'était tellement intense, tellement fort. C'est avec mon parrain que j'ai pu un peu reconstruire mon puzzle de ma vie. Bon, j'espère qu'il va m'aider à retrouver mon papa.
Oui, hein, oui, bien
parrain.
Sûr. Oui.
C'est difficile de nouer un contact parce que la peur, l'appréhension de se dire comment ça va se passer, comment ils vont me recevoir, est-ce que je vais être acceptée.
Et de leur part, il y a quoi, vous pensez, beaucoup de culpabilité?
C'est dommage parce qu'il faut passer au-delà de cette culpabilité pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse se reconstruire. Maintenant, nous sommes des adultes, nous pouvons comprendre, nous pouvons savoir. Voilà, donc il est temps de parler avant que l'on meure, quoi. Pas à cause créole, donc il va falloir comprendre le créole. Ma maison, là où je suis née, c'est un tout petit peu plus haut.
Une case elle en tôle. Existe encore, cette
oui,
maison.
Cette maison existe encore, c'était une case en tôle et c'est vrai que c'était la misère. Hein. Vraiment, très grande misère. Donc ma maman, elle avait 6 enfants et c'est vrai que bon, on était vraiment dans la misère totale.
Et c'est pour ça que les enfants avaient été placés en garde dans des foyers.
C'est pour ça que les enfants ont été placés en garde, mais cela n'explique en rien. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu aider les familles sur place pour que les parents puissent nous garder. J'ai été exilée de force, j'ai été transplantée comme un objet et je suis restée que 3 ans parce que moi, j'ai pris l'avion à l'âge de 3 ans. Ça arrache le cœur quand même. Hein.
Ah oui.
Parce que c'est pas normal qu'on reste autant d'années sans avoir des nouvelles de sa famille, d'origine, et surtout vivre dans le mensonge comme on a pu vivre la plupart d'entre nous. Quoi. Je dis que c'est une affaire d'État et il faut vraiment qu'on ait des réponses à nos questions.
En 1965, Michel Debré était député de La Réunion. C'est lui qui décide alors ce plan de transplantation, enlever des enfants pauvres de La Réunion pour peupler des départements vides de métropole. On ne s'embarrasse alors pas de sentiments, ni de l'accord des parents, encore moins de l'égalité. Valérie Andanson a vu ainsi son lieu de naissance modifié sur ses papiers d'identité. Née à La Brionne dans la Creuse, décide-t-on alors arbitrairement. Voilà plus de 20 ans qu'elle veut récupérer son véritable état civil, celui de Marie-Germaine Périgonne, née à Saint-Paul de la Réunion.
Marie-Germaine, c'est mon véritable prénom. C'est souvent ici qu'on m'appelle Germaine. C'est bien, mais c'est ce que je veux retrouver, mon nom, mon prénom. Et c'est ma quête d'identité, là. Nous allons rentrer à la mairie de Bois-de-Neuf. Là,
là aujourd'hui, je vais vous donner un acte de naissance avec Lavaux, que vous êtes bien née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Ici, en cette date-là, le 24 mars 1963.
Oui.
Et après, il faudra faire les démarches au niveau de la mairie de La Brionne.
Eh bien, je vais vous avouer quelque chose, c'est la première fois qu'on me le donne. Ce nom-là, né ici, c'est la première fois. Le tampon, la date surtout. Ouh, aïe.
Contre toute attente, l'employé de mairie va lui fournir le papier de ce jour-là, mais que pour d'obscures raisons politiques, on refusait jusqu'alors de lui donner.
C'est extraordinaire. Oh, je suis ravie, je vais pouvoir prouver que je suis bien née ici à La Réunion. C'est exceptionnel. Ah, je suis heureuse. Ah oui.
C'est accompagné de sa fille Aurore que Marlène, 67 ans, pose ses premiers pas sur cette île qu'elle a si longtemps cachée à ses enfants. 52 ans d'absence. Sur la plage de l'Ermitage, l'eau lui fait peur, elle n'a jamais nagé. Son histoire, c'est Aurore, 37 ans aujourd'hui, qui l'a poussée à s'y plonger.
Et c'est vrai que souvent, quand je lui demandais, maman, pourquoi t'es venue en France, elle me disait, oh, je te raconterai quand tu seras plus grande. Pour l'instant, t'es trop petite. C'était toujours, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et maman disait toujours, plus tard. Ben, le plus tard est arrivé.
À l'âge de 14 ans, il y a une assistante sociale qui vient me proposer de, si je voulais faire des études, que je pourrais venir en France. Et est-ce que tu es partante? Ben, je dis oui, c'est pour mes études, oui. Mais elle me dit, n'oublie pas que tous les ans, tu reviendras dans l'île. Tu reverras ta sœur. Pas comme si tu partais pour toujours. Alors j'étais d'accord, j'ai dit oui.
Et donc en septembre 65, vous partez en France avec beaucoup d'espoir,
oui.
Comme une enfant de 15 ans.
Et qu'est-ce qui vous attend en France? Vous étiez déjà consciente que quelque chose n'allait pas?
Évidemment. Évidemment, parce qu'on avait la classe, quoi. Ça durait quoi? Une ou deux heures peut-être par jour. Et après ça, c'était des tâches, c'est-à-dire du jardinage, voilà, d'autres tâches et des tâches ménagères. C'était pas du tout ce qu'on voulait faire.
Malvoyante, bientôt dialysée, Marlène vit ce voyage comme celui de la dernière chance. Elle voudrait retrouver une sœur, mais cet après-midi-là, c'est le contact d'un neveu qui lui parvient.
On va essayer.
Oui, allô, c'est Ludovic. Bonjour, je suis Marlène Morin. Je voulais savoir, tu habites où, là, dans Lille?
Maintenant, j'habite plus là, dans Lille. Maintenant, j'habite en métropole, j'ai déménagé.
T'es en métropole, donc je te verrai pas. Franchement, ça... Oh là là. Moi qui est venu là et que j'ai encore vu personne, j'ai dit enfin quelqu'un de ma famille qui se manifeste. Si tu peux pas savoir comme c'est agréable. Je te remercie beaucoup. Tu m'envoies ça et tu m'envoies aussi une photo de toi. C'est primordial pour moi.
Hein? Pas de problème.
Bisous. Au revoir. Il est très très gentil. Hein?
À Saint-Denis, c'est un drôle de pèlerinage qu'ont entamé Marlène, Valérie et Maryse à la pouponnière de leur enfance, là où elles ont été placées bébés par les services sociaux avant de partir pour la métropole.
Au niveau des bruits, des cris de bébés, ça devait y aller, hein, parce que s'il devait y en avoir 40, j'imagine.
Il y a à l'étage, elle me dit. Il y a plusieurs groupes. Plusieurs groupes, elle me dit.
Des groupes des sages, des moins sages.
Et vous étiez où, vous pensez?
Je ne sais pas, je pense que j'étais dans les moins sages. Me connaissant. Par contre, il n'y a jamais eu de photo de bébé ou quoi, parce que c'est ce qui me fait le plus de peine, c'est de jamais... Je ne pourrais jamais me connaître bébé.
De cette époque, sœur Marie est la dernière des religieuses qui se souvient. Elle raconte à Valérie.
Les enfants arrivaient à n'importe quel moment, quelquefois en pleine nuit. On ramenait des enfants en pleine nuit, ben on les accueillait, quoi.
La dernière fois que je suis venue vous voir, vous nous avez dit qu'on était dans des box. Est-ce que c'était vrai ou pas?
Les box, ça veut dire, oui. C'était pas des box... des enfants coincés, c'était dans un box, pas dormir en particulier.
Voilà.
Elle avait chacun son lit.
D'accord, on avait chacun notre lit alors.
Chacun son lit.
Bon, déjà, je sais que j'étais choyée par vous,
les religieuses.
Voilà,
et
par
les
religieuses.
Jeunes filles qui étaient formées sur la place. D'accord. Pour donner l'affection à ces pauvres enfants qui avaient besoin de l'aide.
Ben là, moi, a priori, j'ai dû être abandonnée. On ne sait pas trop, en fin de compte, ce qui s'est réellement passé. Hein. C'est un peu compliqué, quoi.
Et Valérie, vous, de quoi vous vous souvenez? En tout cas, pas de la pouponnière, pas du départ de la pouponnière, mais à partir de quand il y a des souvenirs?
Ah ben moi, j'ai des flashs, hein. Uniquement des flashs, et dans l'avion. Je ne me souviens absolument de rien de la Réunion, hein. Mais j'ai des flashs dans l'avion. Je me vois avec tout ce nombre important d'enfants de couleur. Et arrivé dans la Creuse, j'ai aussi des flashs. Mais bon, j'ai su par la suite, par les plus grands, qu'arrivé à Guéret, on était tellement nombreux qu'ils ont été obligés de mettre des matelas par terre. Les petits dormaient par terre, dans la cuisine, dans les couloirs, partout.
Et à partir de là, vous avez été placée dans une première famille.
Et à partir de là, donc, ce qui est incroyable, c'est que toute ma fratrie a été exilée. Nous sommes tous partis en même temps. Nous étions 6. Donc 2 garçons, 4 filles. Et nous avons tous été séparés. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil, dans la Creuse. Là, ça s'est très mal passé. Et de cette période, je fais abstraction parce que j'ai envie de me protéger. Donc je n'en parle pas. Mais le seul lieu où je me sentais en sécurité, c'était sous la table. Mais je me souviens de cette assistante sociale qui est venue une fois. Ça m'avait marqué. Et ce jour-là, on mangeait bien. Ce jour-là, on était bien habillés. J'ai aussi des flashs de cette période-là. C'est-à-dire que je croisais mes frères et sœurs d'Enguerrais sans savoir qu'ils étaient mes frères et mes sœurs.
Et ensuite, vous avez été adoptée par une famille aimante, dites-vous.
J'ai été adoptée à l'âge de 7 ans par une famille aimante. Mais je me souviendrai toujours de mon premier jour. Quand je suis arrivée dans ce village où il n'y avait que des blancs, et je monte donc les escaliers de ce restaurant, et c'est 2 personnes blanches qui viennent vers moi, se présentent. Je suis ta maman, je suis ton papa. Alors que, bon, je me suis quand même posé la question, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Ma première réaction, ça a été d'aller sous la table avec le chien, puisque c'était le lieu où je me sentais bien. Mon père adoptif a mis un an pour m'approcher.
Et est-ce que vous avez compris pourquoi vos parents n'avaient rien dit, n'avaient rien expliqué ?
À l'âge de 16 ans, je suis tombée sur un document qui me disait que j'étais adoptée. Et là, c'était pour moi un véritable tsunami. Je me suis assise sur mon lit et je me suis dit, mais bon sang, toutes ces questions que je me posais. Et ma mère me dit, voilà, j'ai dit, maintenant j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et elle m'a dit, oui, tu es adoptée, tu t'appelais Marie-Germaine Périgogne, tu es née à La Réunion et tu as des frères et des sœurs qui sont à côté de toi. Vous vous rendez compte? Le choc.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le Cantal. Le Cantal. Il y a 20 ans, une telle visite aurait été inimaginable. Signe que l'État français commence à faire son mea culpa au Conseil général. Marie-Thérèse Huet, de la direction Enfance et Famille, reçoit les trois victimes pour leur montrer leur dossier d'aide sociale à l'enfance. On y trouve des secrets très bien gardés sur leurs premières années de vie à La Réunion, sur leurs parents, sur la manière dont elles ont été déracinées. Mais pour Marlène, la visite est lourde de déception.
Alors, Madame Morin, dans les recherches, donc, que ce soit au niveau des archives ou du service intermédiaire donc des archives, on n'a pas retrouvé votre dossier. Voilà, je suis désolée, mais on n'a pas plus d'informations.
Je voulais juste vous ajouter quelque chose. Je n'ai pas de photo de ma mère. Est-ce que ça arrive des fois dans les archives qu'il y a quelque chose de nos parents?
En général, non. On a des dossiers, on a des photos des enfants quand ils étaient petits.
Oui, ça, j'ai pas non plus.
Mais on n'a pas des photos des parents.
On est venu nous dire qu'elle était décédée quand j'avais 11 ans.
D'accord. Voilà. Et vous n'avez pas assisté, on ne vous a pas autorisé à aller à la veillée?
Non, on a demandé. Moi aussi, j'ai demandé. On nous a dit non. Parce qu'elle est décédée et puis moi, je ne sais pas où elle était enterrée.
Émue, c'est au tour de Maryse de prendre place pour découvrir tout un pan de son histoire encore inconnue.
Alors, vous êtes née en 67. Votre maman, quand elle était ici, elle vous avait déjà confié à l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Donc là, il y a un rapport qui est déjà établi en 67. Voilà, on fait part en fait de son instabilité.
Il n'y a pas de papier qui dit « je vous confie mon enfant à l'aide sociale à l'enfance ». Ce qui veut dire que la justice avait le droit donc de déclarer que l'enfant était devenu pupille de l'État sans faire de conseil de famille, sans demander à la famille si quelqu'un était peut-être intéressé par une petite adoption familiale.
Il faut resituer également voilà, donc le contexte de misère à l'époque.
Tout à fait.
D'accord.
Voilà. Je ne dis pas ça, ce n'est pas un reproche. D'accord. Je pense que dans les années 67, quand même, l'État, oui, c'est une chose, mais après, il faut aussi mettre la responsabilité sur peut-être des mères ou des pères un peu volages. Voilà. Qui n'étaient pas des modèles de vertu.
Si vous le dites.
Ah! Que je suis contente. Très bon quotient intellectuel. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments. C'est bien. Après, non, je n'en veux pas aux personnes. C'est un peu comme si on disait aux Allemands aujourd'hui, vous êtes fautifs. Voilà. Donc, c'est. Non, je pense que. Et il m'a dit que j'avais un quotient intellectuel quand même bien. Donc, non. Ça, non, mais franchement. On en rit, et bien c'est là qu'on se rend compte que si on avait été adopté par une famille équilibrée, intelligente, avec beaucoup d'amour, je pense que j'aurais pu être avocate. Non, ça aurait été mon rêve. Voilà.
Les enfants volés de La Réunion, un grand reportage de Frédéric Lebel à la réalisation Eva Moschinski.